Alors, comme je l'ai partagé depuis quelque temps, j'avais à cœur de partager un thème, en tout cas que j'avais à cœur de faire. Je vais juste prendre le temps, voilà, d'enregistrer. Il y a quelque temps, je vous ai montré un livre de Jerry Bridge, pas si grave. Et j'en ai fait quelques citations de ce livre, et Jerry aborde des sujets, des attitudes que nous tolérons dans notre vie chrétienne et qui ne sont pas toujours à la gloire de Dieu. Alors, quelques exemples que ce livre cite ou dit. Par exemple, l'orgueil. Et on peut dire tout ce qu'on veut, mais on lutte parfois avec l'orgueil dans notre vie personnelle. Quand un chef ne nous donne pas ce qu'on désire parfois, ou quand on voudrait avoir la place de quelqu'un d'autre dans notre travail, on a tous peut-être à un moment donné dans notre vie manifesté cette attitude dans notre vie chrétienne qui nous fait malheureusement du tort. Et vous vous posez peut-être la question, comment vaincre l'orgueil dans votre vie quand ça arrive? Vous, peut-être, vous luttez avec un problème comme l'égoïsme. Alors, l'égoïsme est quelque chose qui est grandissant dans notre société. Mais certains chrétiens luttent aussi avec l'égoïsme. Quand certaines personnes viennent taper à la porte et demandent de l'aide, et que la seule raison que nous avons, c'est pas le temps, et qu'on ferme la porte à cette personne. Comment avoir la victoire sur notre égoïsme personnel? Vous direz peut-être, je lutte avec de l'impatience dans ma vie, de la colère, du manque de maîtrise de soi. J'ai du mal à me contrôler. Combien de fois ai-je entendu cela? Et personnellement, il m'est arrivé parfois de me le dire par rapport à mon impatience. Je double la file, je veux être le premier, je manifeste de la colère pour telle ou telle situation, ou je manque de maîtrise pendant telle ou telle situation. Enfin, toutes ces situations sont là pour nous rappeler que certaines attitudes nous font la guerre, mais nous les tolérons dans notre vie chrétienne, et le Seigneur a besoin de nous le rappeler dans le quotidien que certaines ne sont pas à la gloire de Dieu. Alors j'aimerais vous poser une question ce matin. Quelle est l'attitude que tu tolères dans ta vie chrétienne et que tu aimerais voir changer? Quelle est l'attitude que tu tolères dans ta vie chrétienne et que tu aimerais voir changer? Alors, je ne vais pas aborder l'orgueil, pas aujourd'hui en tout cas. Je ne vais pas aborder l'égoïsme, je ne vais pas aborder l'impatience, la colère, la maîtrise de soi. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais j'aimerais aborder une attitude qui est pratiquement chez tous les chrétiens. En tout cas, rare ai-je vu dans ma vie quelqu'un qui n'a pas manifesté cette attitude. C'est la jalousie. La jalousie. Est-ce que nous n'avons pas été jaloux à un moment donné dans notre vie? Et encore peut-être aujourd'hui, taper du pied quand on n'a pas ce qu'on désire dans notre vie. Un pasteur protestant a dit un jour que la jalousie est un sentiment désastreux qui n'épargne aucune société humaine. Donc je me dis, si ce pasteur protestant a constaté cela dans la vie, j'imagine que chez certains chrétiens aussi, c'est un sentiment qui peut être désastreux, malheureusement. Il dira plus loin dans son livre que c'est un fléau social et spirituel qui passe souvent inaperçu. Entre vous et moi,
qui n'a pas envié la nouvelle voiture de son voisin?
Quand vous enviez la nouvelle voiture de votre voisin, la voiture neuve, vous savez, celle qu'il a achetée il n'y a pas longtemps. En règle générale, vous et moi, on ne va pas sur le toit et crier « Je veux la même !»« Je veux la même que toi !» On rumine dans notre cœur et bien souvent, c'est quelque chose qui fait bien sûr souvent des dégâts. Moody, évangéliste du 19e siècle, a dit un jour « Si vous êtes jaloux, rappelez-vous que c'est à vous-même que vous faites le plus grand tort. C'est à vous-même que vous faites le plus grand tort. » Je voudrais vous raconter une petite histoire russe. Alors, je suis allé la chercher sur Internet. J'aime bien trouver des petites histoires comme cela pour alimenter la prédication. C'est un Anglais, un Français et un Russe. Tous les trois sont capturés par le diable. Le diable les informe de son intention de le mettre à mort la semaine suivante. Mais le diable leur dit, en attendant la semaine prochaine, je peux vous accorder un vœu que je vais exécuter selon votre propre volonté. Le Français, moi le premier, quel est ton vœu? Je demande un week-end à Paris, dans l'un des plus beaux hôtels, le Ritz de préférence, dans une suite royale, avec ma maîtresse, sans que la famille le sache. Pour vivre heureux, vivons cachés. L'Anglais, moi, je demande un week-end à la campagne, dans un petit cottage, avec mon chien et mes livres préférés. Très bien. Le Russe. Et toi, le Russe, qu'est-ce que tu demandes? Je demande que la propriété de mon voisin soit détruite. Vous comprenez l'histoire, n'est-ce pas? J'espère que vous avez compris l'histoire, que la jalousie est un sentiment qui est vraiment désastreux, qui peut nous détruire nous-mêmes, mais en même temps qui peut détruire toute une société. Alors, comment vaincre cette jalousie dans notre vie? Comment avoir la victoire sur cette attitude? Parce que c'est ce que je voudrais essayer de retirer ce matin, de comment avoir la victoire sur cette attitude que nous tolérons parfois dans notre vie. Tout d'abord, je voudrais vous donner l'étymologie du mot jalousie. Le mot jalousie se trouve autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Mais il a une manière d'être porté, en tout cas, et on va regarder un peu comment il a été écrit. Je ne pourrais pas regarder tous les passages du mot jalousie dans la Bible, parce qu'il y en a nombreux. On en verra quelques-uns la semaine prochaine, quelques exemples la semaine prochaine. Mais le mot jalousie a une particularité dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Tout d'abord, la définition du petit Robert. Voilà ce que le petit Robert dit. C'est un sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir de l'avantage qu'on possède pas, qu'on désirerait posséder seul. J'imagine que la voiture neuve, tout le monde aime la posséder. Mais à certaines fois, c'est pas possible d'avoir un véhicule neuf. Donc, le petit Robert nous rappelle que c'est un avantage qu'on ne possède pas, mais qu'on désirerait posséder. La définition maintenant du dictionnaire biblique. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu kina, qui signifie donc jalousie, c'est littéralement devenir rouge foncé. Donc le mot en hébreu est très clair, c'est-à-dire qu'une personne qui est jalouse va devenir rouge foncé. C'est littéralement le mot en hébreu. Vous avez cette expression, ce proverbe, pardon, qui existe dans Proverbe chapitre 6, verset 34, qui dit « Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Donc vous pouvez réfléchir un petit peu, quand vous avez été jaloux, peut-être qu'à un moment donné, vous avez été jaloux à vous mettre, devenir rouge foncé. En grec, le Nouveau Testament, le mot est complètement différent, c'est-à-dire que le mot est cité par zélon ou parazélon, donc c'est un mot qui est accolé avec un autre mot, et il signifie exactement la même chose, donc c'est quelque chose qui rend jaloux. C'est une personne que nous voyons faire quelque chose qui nous rend jaloux. Je voudrais vous rappeler, par exemple, quand Étienne a témoigné devant les Juifs, voici ce qu'il va dire dans son témoignage, dans Actes chapitre 7, verset 9. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmenés en Égypte. Vous pensez bien que Étienne était en train de rappeler à ces Juifs, donc ces Parisiens qui étaient là, eh bien voilà ce qui s'est passé dans le temps. Donc les patriarches jaloux de Joseph, donc ses frères étaient jaloux. Donc je vais juste arrêter là parce que je voudrais en donner quelques mots la semaine prochaine. Paul va aussi employer ce mot dans le Nouveau Testament et il va dire des Juifs ceci. Je dis donc, est-ce que pour tomber qu'ils ont branché loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Voilà ce que Paul est en train de rappeler à l'église de Rome. C'est-à-dire que si aujourd'hui les païens ont l'évangile, c'est-à-dire si Dieu a fait grâce à l'évangile, on pourrait aller dans le détail avec ça, mais quelque part, c'était la responsabilité des Juifs à parler de Jésus-Christ. Et c'est pas ce qui s'est passé du tout. Donc, la Bible nous dit que c'est pour exciter la jalousie des Juifs que Dieu a fait cela. Donc, le mot hébreu comme le mot grec s'applique à la jalousie et peut nous priver dans beaucoup de choses dans notre vie. Mais dans la Bible, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, vous avez un sens positif et un sens négatif du mot jalousie. Par exemple, l'aspect négatif de la chose, elle caractérise l'envie de posséder quelque chose. Elle caractérise le besoin d'avoir quelque chose qu'on ne possède pas. Dans le livre de la Genèse, dès le début, chapitre 4, verset 1 à 8, on nous parle de Abel et de Caïn. Dieu leur a demandé une offrande. Je ne vais pas beaucoup en parler, puisque je vais en parler la semaine prochaine, un peu plus dans le détail. Mais Dieu a eu un regard plus favorable à une offrande que l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a tué Abel. Deuxième exemple, dans le livre de la Genèse, chapitre 30, verset 1. Rachel et Jacob. Voici ce qu'il est dit dans Genèse chapitre 30, verset 1. Lorsque Rachel dit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Là encore, c'est un exemple, je dirais, négatif, dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire que deux sœurs, une a des enfants, l'autre n'a pas d'enfants. Et il y a une jalousie qui va se porter à un moment donné, donc c'est Rachel qui va porter envie à sa sœur, parce qu'elle n'a pas d'enfants, elle est terrible. Mais c'est pas ce que nous vivons parfois. Quand nous voyons quelque chose qui nous paraît injuste ailleurs et que nous ne possédons pas, dans le sens positif, nous voyons dans la Bible que la Bible nous parle que Dieu est un Dieu jaloux. Et c'est-à-dire qu'il a un zèle dans le sens de l'idée de ce qu'il voudrait qu'on sache de lui. C'est une des caractéristiques de Dieu. Et quand vous regardez Exode chapitre 20, verset 5, on nous parle... Tu ne te prosterneras point devant elle, donc en parlant des statues, et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, quatrième génération de ceux qui me haïssent. » Eh bien, c'est un commandement qui était donné, c'est vrai, à la nation juive. Mais quand on regarde un petit peu plus loin dans le livre de Deutéronome, est-ce que vous pensez que les Juifs ont mis en pratique ce genre de choses? Pas du tout. Deutéronome chapitre 32, versets 16 à 21, alors je ne lirai pas tout dans le détail, mais il est dit clairement qu'ils ont excité Dieu, la nation juive, hein. Ils l'ont hérité, ils ont sacrifié des idoles, ils l'ont abandonné, ils l'ont oublié. C'est-à-dire que Dieu leur a donné un commandement clair. Faites attention, je suis un Dieu jaloux. N'allez pas faire des sacrifices d'idoles parce que je ne vais pas du tout apprécier. Au lieu de cela, eh bien, ils l'ont hérité, ils l'ont abandonné. Eh bien, c'est dans un sens positif cette affaire-là. C'est-à-dire qu'elle montre bien une des caractéristiques de Dieu, et Dieu ne veut pas d'autre Dieu que lui seul. Juste une petite question. Quel est le Dieu parfois que vous mettez à côté de vous? Vous savez, dans la jalousie, on peut avoir toutes sortes de dieux qu'on met à la place de Dieu. Et je pense que ça doit nous apporter en tout cas un enseignement. Est-ce que nous, par notre comportement ou par notre attitude, est-ce que nous irritons pas parfois Dieu? Est-ce que nous oublions pas parfois Dieu? Est-ce que nous abandonnons pas parfois Dieu? Parce que être attitude qui ne glorifie pas le Seigneur. Alors l'enseignement de la Bible est clair sur la jalousie. L'apôtre Paul et d'autres apôtres vont mettre cela en valeur. Dans la parole, et on va regarder un petit peu quelques enseignements. Je ne pourrai pas les aborder tous aujourd'hui, c'est impossible, donc j'en donnerai une deuxième partie la prochaine fois. Mais une des choses que je voudrais retenir ce matin, c'est que la jalousie est un signe d'immaturité chez le chrétien. Si tu es jaloux, c'est un signe d'immaturité. Voici ce que l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, eux qui pensaient avoir la connaissance, eux qui pensaient être fiers de Jésus-Christ, eux qui pensaient qu'ils avaient atteint le summum de la spiritualité. Voici ce que Paul va leur dire dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne la pourrez pas, même en ma présence, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas comme des hommes, selon les hommes? » Donc Paul est en train de rappeler à ses Corinthiens, bien qu'ils étaient jaloux, qu'ils étaient fiers d'avoir cette connaissance, qu'ils étaient des beaux parleurs, mais dans le fond, ils étaient restés des enfants. Des enfants dans la spiritualité. C'est grave de constater ça parfois chez quelqu'un qui a nombreuses années spirituelles, mais qui est resté un enfant spirituel. Je le constate régulièrement dans ma vie chrétienne, en parlant parfois avec certaines personnes, je me dis, mais elle devrait avoir une maturité chrétienne, cette personne. Elle se vante de certaines choses, mais les choses élémentaires, c'est-à-dire les choses qui nous paraissent parfois, je dirais, des fondamentaux, on les oublie facilement dans notre vie chrétienne. Et je me dis, mais combien sont comme cela parmi nous parfois? Cette attitude que nous tolérons dans notre vie chrétienne, on reste parfois des disputes. On reste parfois, pardon, on accepte la jalousie dans notre vie. On accepte parfois des rivalités. On accepte parfois d'être des hommes et des femmes charnels dans le Seigneur. Et on oublie les choses élémentaires. Paul, quand il va écrire à Timothée, voici la formule qu'il va dire à ces faux docteurs qui circulaient déjà à l'époque dans l'église primitive. Ils sont enflés d'orgueil. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, donc la jalousie, les querelles, la calomnie, les mauvais soupçons, les belles discussions d'hommes corrompus, d'entendements privés de la vérité et croyant que la piété est la source des guerres. Combien de fois on rencontre de ces personnages qui ont la maladie des questions oiseuses? Je me dis, vous savez, ces questions qui ne sont pas forcément à la gloire de Dieu, ou qui ont besoin parfois d'être réfléchies, c'est vrai. Mais en même temps, quand on regarde le fond, eh bien, ils refusent la vérité de Dieu. Jacques va aussi parler de cette affaire d'immaturité. J'ai pas le temps de le lire ce matin, mais vous pouvez lire tranquillement chez vous Jacques 3, à partir du verset 4 jusqu'à 13, pardon, jusqu'au 4, verset 4, où il en parle aussi de cette convoitise, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres, et il parle là de la convoitise, donc de quelque chose que on veut avoir, qu'on veut posséder, et qu'on ne possède pas, qu'on a beau demander à Dieu, et que Dieu ne nous l'accorde pas, tout simplement parce que nous avons un manque de maturité dans notre cœur. Alors, ça laisse quand même à réfléchir. Mais est-ce que nous, en tant que parents, nous, en tant que couple parfois, nous, en tant qu'enfants, quand on voit ce genre de comportement, est-ce qu'on y réfléchit? Ou faisons comme certaines personnes dans notre société, faisons notre cri de nerfs pour telle ou telle chose que nous ne possédons pas? Un meilleur poste. Mais peut-être que Dieu ne veut pas que tu aies un meilleur poste. Un habit, un costume, un jouet. Parce que je vois le jouet chez l'autre, je veux personnellement le posséder. Mais on voit ça régulièrement chez nos enfants parfois. Combien d'enfants n'ont pas tapé des pieds dans les magasins? Je veux avoir ceci. Je ne peux pas. Je veux avoir. Et si je n'ai pas, je tape du pied. La volonté de recevoir à tout prix, de recevoir les honneurs, c'est une preuve d'infantilisme, nous dit la parole. C'est une preuve d'enfant, d'être un enfant. Et Jacques va très loin. Il va même dire que c'est une tendance démoniaque. Lisez le texte que je viens de vous citer. Il va dire que c'est l'ennemi qui nous pousse parfois à faire ce genre de choses. Alors, la conclusion de la première partie. Cette attitude doit changer dans notre vie personnelle, afin que nous puissions glorifier le Seigneur. J'ai cherché une conclusion et je me suis posé la question sur l'esprit de comparaison. Parce que ça va être ça ma conclusion ce matin. Quand on compare, quand on se compare les uns les autres, quand on compare un don ou un talent, quand on compare des églises avec une autre église, quand on compare les musiciens avec des autres musiciens, quand on compare les dons que Dieu nous donne avec d'autres dons dans d'autres endroits. C'est l'histoire d'un vendeur. C'était un vendeur de voitures. Il avait de bons résultats. Il était le meilleur vendeur dans son garage. Et pendant 3 ans, le patron est venu lui donner la médaille de mérite parce qu'il avait les meilleurs résultats. Et puis voilà, un nouveau vendeur est passé par là. Et puis, il a de l'opportunisme différent de l'autre. Il le dépasse assez rapidement. Et malheureusement, la reconnaissance que pendant 3 ans, le premier vendeur Luc a reçue, eh bien, c'est le plus jeune maintenant qui va recevoir la reconnaissance. Il est arrivé à avoir ce que l'autre n'a pas reçu à avoir. Nous sommes confrontés tous les jours à ce genre de situation, à la comparaison. Et dans nos églises, nous avons ça régulièrement. Parfois, nous comparons ce qui s'est passé ailleurs. Et on pense que ce qu'on a vu ailleurs peut être reproduit ici à Parole Succède. Eh bien, moi, je vous dis oui et non. Il y a des choses qu'on peut reproduire sans aucun problème, mais il y a des choses qu'on ne pourra jamais reproduire à Parole Succède. Tout simplement parce que vous êtes ici et que vous n'êtes plus ailleurs. Et que ce que vous avez vécu ailleurs, eh bien, c'était ailleurs. Et qu'aujourd'hui, vous devez vivre ce que Dieu vous a donné de vivre ici, maintenant, à présent. Votre talent, vous devez le mettre en pratique ici, dans cette église. Vos dons, vous devez les mettre ici. Votre intelligence, vous devez les mettre ici. Parce que tout simplement, Dieu vous a dirigé ici, à l'heure actuelle. Si demain, il vous dirige dans un autre endroit, eh bien, apportez quelques idées de Parole Succède ailleurs, et vous verrez bien si elles seront bien reçues, ces nouvelles idées ailleurs. Que faire lorsque nous sommes tentés d'être envieux ou jaloux des autres? Eh bien, je voudrais vous donner quelques enseignements par rapport à ça, que j'ai trouvé dans un livre et que je trouve très intéressant. Nous pouvons, comme pour beaucoup d'autres, commettre ce péché d'envier, de vouloir posséder impérativement quelque chose que nous ne possédons pas. Vous savez, quand la voiture nous tombe en panne tous les jours, on a tous envie d'avoir une voiture neuve, hein. Et j'ai même eu le désir à un moment donné de la changer tous les 3 ans. Vous savez, on dit souvent qu'un véhicule, c'est pas un grand investissement. C'est rarement un investissement. Quand je vois les dépenses que notre société fait sur un véhicule, c'est vrai qu'on aimerait le changer tous les 3 ans. Oui, si on a les moyens de le faire, pas de problème. Mais quand on n'a pas les moyens de le faire, on peut être envieux de vouloir la voiture du voisin. De vouloir posséder ce que le Seigneur ne nous donne pas, tout simplement. Je pense qu'il faut demander pardon quand on est envieux, quand on a cette pensée qui nous traverse l'esprit, cette attitude qui nous traverse l'esprit. Je pense que nous avons besoin de demander pardon et de dire au Seigneur, je ne te glorifie pas dans cette situation. C'est vrai, j'ai été envieux, c'est vrai, j'ai été jaloux de telle ou telle situation. C'est quelque chose, mes frères et sœurs, que vous devez apprendre à vos enfants. À ne pas être envieux ou jaloux des uns des autres. Je vous ai cité dans l'Ancien Testament que 2 sœurs se sont enviées tout simplement parce qu'une avait des enfants et l'autre n'avait pas des enfants. Mais c'est quelque chose qui peut arriver couramment dans nos familles. J'ai personnellement une famille en Italie qui m'a rappelé des disputes passées. Ils enviaient certaines situations de leurs frères et de leurs sœurs. Je dis, mais c'est du passé, ça ne glorifie pas Dieu. Malgré ça, ils revenaient constamment là-dessus. Envier un talent de quelqu'un d'autre. Envier le don spirituel de quelqu'un d'autre. Envier l'église de quelqu'un d'autre. N'est-ce pas la comparaison? Malheureusement, on apprend trop à regarder à l'autre,
sans forcément regarder à soi-même et à regarder là où c'est que le Seigneur nous a plantés. Comme je vous l'ai dit, on trouvera toujours meilleur vendeur. Même si vous avez du potentiel, il y aura toujours un jeune qui va se profiler à un moment donné, qui va vouloir vous prendre la place. Mon beau-père Félix, qui est auprès du Seigneur aujourd'hui, il y avait deux hommes qu'il aimait beaucoup. C'était Yul Brynner. Personnellement, moi j'aime pas du tout Yul Brynner, mais bon, lui, c'était Yul Brynner. C'était son acteur préféré, et il nous en donnait dans toutes les sauces de son Yul Brynner. Et puis de John Wayne. Alors là, John Wayne, c'était son idole. Yul Brynner, c'était son idole. Et puis, John Wayne était aussi son idole. Ouais, mais voilà, il y a des petits jeunes qui sont arrivés discrètement. Et maintenant, on ne va plus parler de Yul Brynner, ou on ne va plus parler de John Wayne. On va parler plutôt de Brad Pitt. Hein, Brad Pitt, il est là, le petit jeune qui s'est faufilé, qui a pris la place de Yul Brynner et qui a pris la place de John Wayne. Et puis, on va entendre parler souvent de George Clooney. Alors là, George Clooney, ça, c'est l'acteur au summum. Il a pris la place de Yul Brynner et de John Wayne. Il y a toujours un petit jeune qui se profile quelque part à un moment donné. Bien, vous savez, la jalousie, ça fait partie de notre quotidien. Et nous devons apprendre la reconnaissance en face de la jalousie. Certains pensent que, pour changer de facteur, il n'est pas assez doué, il ne fait pas des livres, il ne prêche pas bien. On a envie de plus grand, de plus petit. Vous savez, l'envie fait partie de notre quotidien si on n'y prend pas garde. Je voudrais juste vous rappeler de deux versets dans la Bible. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Les biens matériels que tu as, ça vient de Dieu. Tout vient de Dieu. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. C'est pas moi qui le dis, c'est Samuel, 1 Samuel chapitre 2, verset 7. Tout vient de Dieu. Ah, si on pouvait comprendre cela dans notre vie personnelle, on serait sûrement moins jaloux, on taperait moins des pieds. Parce que l'Éternel est souverain, il est au-dessus de toi, il gère toutes choses, et il sait ce que tu as le besoin, le plus besoin. Et je pense que ça nous rend plus humbles devant certaines situations. Il abaisse les uns et il élève les autres. Eh oui. Il a élevé à un moment donné, Yul Brynner, John Wayne, il les a élevés. Ouais, mais... il a élevé aussi, à un moment donné, Brad Pitt, hein. Et George Clooney, il est arrivé, il était là, jeune, à l'époque, hein. Il n'était pas très connu. Il y aura toujours, à un moment donné, quelqu'un d'autre. Il y aura toujours quelqu'un de plus grand et de plus beau. Vous connaissez l'histoire de Saül et de David? Saül était considéré comme un roi grand et beau. Ouais, mais à un moment donné, un bon démarrage, bim, une mauvaise fin, quand on regarde l'histoire de Saül et de David. David était un simple berger. Ouais, mais la Bible nous dit que David avait le cœur selon Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, à un moment donné, a choisi David. Donc, faisons attention quand on envie quelque chose, qu'on veut posséder quelque chose, et que forcément Dieu n'approuve pas. Deuxième enseignement, c'est que nous devons nous rappeler qu'en tant que croyants, nous formons un seul corps en Christ, nous sommes tous membres les uns les autres. N'envie pas ce que ton frère a. Ça, c'est de la convoitise. Et je pense que nous avons besoin de nous le rappeler, que la jalousie n'a pas sa place dans l'Église. Et nous ne devons pas
jalouser ni le frère, ni la sœur qui réussit peut-être dans la vie ou qui ne réussit pas. Nous sommes le corps du Christ, nous sommes tous membres les uns les autres. Nous devons plutôt dire comme Paul l'a dit, par honneur, user de prévenance réciproque. Si tu vois quelqu'un réussir dans la vie, glorifie Dieu de savoir que, waouh, lui il a réussi. Si tu vois tes enfants réussir, glorifie Dieu de voir tes enfants réussir. Parce que Dieu peut, du jour au lendemain, tout leur enlever si c'est son désir. Dieu peut dire du jour au lendemain, tu as eu le meilleur, maintenant je vais te faire vivre 7 années de 17 ans. Alors on dit, oh Seigneur, fais ça! Ben, si c'est dans sa volonté, si c'est ce que Dieu veut, parfois, dans nos vies. Faisons attention à l'envie, à ce qu'on a envie parfois, des choses qui peuvent nous dépasser dans notre esprit et qui ne glorifient pas le Seigneur. Troisième enseignement, nous devrions comprendre que si nous employons nos forces et notre énergie à être envieux et jaloux, nous allons perdre de vue le plan du Seigneur qu'il avait pour nous personnellement. Perdre de vue le plan de Dieu pour nous personnellement. Beaucoup de chrétiens restent sur les bancs de tout chemin. On est dans une société aujourd'hui où de moins en moins de chrétiens s'engagent. Je vous ai raconté l'histoire d'un pasteur et de son épouse qui se sont engagés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont risqué leur vie pour ces Juifs. Mais je me dis aujourd'hui, est-ce qu'on risque vraiment notre vie pour telle ou telle chose? Beaucoup, malheureusement, empruntent le chemin du bon se remplaçant. Vous savez, récemment, j'ai revu à la télévision Cantona. Je pensais de tout mon cœur qu'à un moment donné, Cantona allait jouer dans l'équipe de France. J'étais convaincu dans mon cœur que Cantona allait jouer dans l'équipe de France. Vous savez pourquoi il n'a pas joué? Parce qu'il a manifesté de l'orgueil. Il s'est mis à dos l'entraîneur qu'il y avait de l'époque. Et Cantona, il était sur le banc de touche. Il n'a pas du tout joué dans l'équipe de France. C'est triste de voir que des gens, par rapport à ont des qualités, ont des dons, ont des choses que Dieu leur a données. Parce que quelque part, vous êtes responsable de ce que Dieu vous a donné. Vous êtes responsable de ce que Dieu vous a donné. Et vous devez en rendre des comptes à un moment donné. Dieu vous demandera des comptes de ce qu'il vous a donné. Dieu vous a donné une église. Vous devez rendre des comptes de ce que vous faites dans cette église. Dieu vous a donné une famille. Vous allez devoir rendre des comptes pour ce que vous faites dans cette famille. Dieu vous a donné des enfants. Vous aurez des comptes à rendre pour les enfants que Dieu vous a donnés. Personne n'est à l'abri de la jalousie. Personne n'est à l'abri de la jalousie. Le roi Saül est tombé dans le piège en voyant le peuple acclamer David et de dire « Saül en a frappé ses 1000, David en a frappé ses 10 000 », nous dit le texte. Et je voudrais vous lire le verset 9 de 1 Samuel, chapitre 18. « Saül regarda d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. » Jusqu'à présent, il ne le voyait pas d'un mauvais œil, David. C'était celui qui avait vaincu Goliath. C'était celui qui avait fait des choses extraordinaires dans la nation. Et à partir du moment où on est venu flatter plus l'un que l'autre, eh bien, ça a mis la jalousie dans le cœur de Saül.
Vous connaissez le reste, hein?
David, à partir de ce moment-là, eh bien, avait envie de tuer David.
Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu, hein?
Dieu ne voulait pas que David meure, hein? Je vous ai lu ce matin des passages. Dans les moments les plus difficiles, David remerciait le Seigneur. Et je me dis, merci Seigneur que David ait passé par ces moments durs dans sa vie, pour que nous ayons des psaumes aujourd'hui de lecture, pour pouvoir louer et adorer le Seigneur, d'être dans la reconnaissance, de pouvoir louer et adorer le Seigneur. Le jeu de la comparaison est insensé. Il est autodestructeur. Par contre, la gratitude et la reconnaissance envers Dieu constituent un remède contre la jalousie. Alors, est-ce que vous vous comparez les uns les autres? Ah, ma sœur, elle a une meilleure voix que la mienne. Non, non. Mes sœurs, vous avez de belles voix. Exprimez-les pour la gloire du Seigneur au sein de l'Église. Soyez reconnaissants, reconnaissantes de ce que le Seigneur a fait pour vous, là où c'est qu'il vous a placé. Manifestez de la gratitude vis-à-vis du Seigneur. Et on n'aura pas un esprit de jalousie. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier pour ce moment que nous venons d'avoir, ce moment de louange, d'adoration dès le départ, mais aussi, Seigneur, ce moment d'exhortation au travers de la parole de Dieu. C'est vrai que la jalousie, tu la condamnes dans la parole de Dieu et qu'elle est une source d'immaturité. Et combien de fois, Seigneur, nous sommes immatures par rapport à certaines situations. Nous avons besoin d'apprendre et de grandir. Alors, Seigneur, aide-nous à grandir et à aller de l'avant. Aide-nous, Seigneur, à mûrir dans notre vie, dans notre foyer, dans notre famille, avec nos enfants, Seigneur, que nous puissions apprendre à nos enfants qui ne doivent pas être jaloux les uns les autres, parce que ça peut tout simplement les éloigner de Dieu. À toi en revient toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.